Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous retrouvons Sœur Mary Lembo. Sœur Mary, bonjour.
Bonjour, Conchita.
Sœur Mary, dans la dernière émission, on a parlé des conséquences sur les victimes des abus sexuels, sur la perte de la foi, de la fragilisation, du refus de prier. Pour le public en général, l'Église catholique est coupable. L'Église catholique est attaquée. Pourquoi cette focalisation sur l'Église catholique?
La question, elle revient beaucoup sur l'Église catholique. Il y a une focalisation sur l'Église catholique pour une raison, que l'Église est une autorité morale. Selon la mission de l'Église, elle est appelée à être lumière et sel du monde, comme le pape le répète. Et c'est un rappel parce que c'est Jésus lui-même qui nous invite à être sel et lumière du monde. L'Église a connu donc cette réalité en son sein. Il y a des responsables de l'Église qui ont abusé des mineurs sous différentes formes d'abus. Nous avons les abus sexuels, les abus de pouvoir, les abus de confiance. Et c'est ça qui fait que l'Église est focalisée aujourd'hui. Et l'Église ne cherche pas à se défendre, elle accepte, les papes ont demandé pardon aux victimes et l'Église travaille à travers différentes structures de l'Église. Mais ce n'est pas seulement au sein de l'Église qu'il y a les abus sexuels. L'abus sexuel ou l'abus de mineurs existe depuis et dans toutes les structures, dans toutes les dénominations chrétiennes, l'abus sexuel existe. Et les recherches montre qu'au sein de l'Église, c'est 1%, mais ce n'est pas pour cela que nous allons dire qu'il n'y en a pas. L'Église travaille et va de l'avant pour résoudre le problème. Au sein de l'Église, ce qui est difficile pour les victimes, c'est de se rendre compte que ces personnes qui sont responsables de l'Église, elles ont mis leur confiance en elles. Et c'est dans les relations pastorales, souvent, que ça se passe. Donc, elles sont au service de l'Église et c'est ça qui influence beaucoup la conséquence spirituelle chez les victimes. Et c'est ça qui fait la souffrance des victimes et la colère aussi des familles, des victimes elles-mêmes. Et la gestion de ces réalités a connu des difficultés au sein de l'Église. Et l'Église reconnaît. C'est pas qu'elle ne travaillait pas pour répondre aux plaintes, mais tout était centralisé au niveau du Vatican et ça prenait du temps et il y avait une lenteur. Mais l'Église travaillait, elle a toujours travaillé pour répondre, mais la manière n'était pas efficace. Et l'Église se reprend et elle répond aujourd'hui. Elle veut répondre de manière efficace pour la souffrance des victimes et aussi des agresseurs. Il faudrait prendre soin aussi de les aider à se corriger et surtout à se soigner pour ceux qui sont dans des situations de maladie. Donc voilà pourquoi cette focalisation sur l'Église, mais c'est une des raisons. Mais les autres, parfois, c'est difficile à comprendre pourquoi. Et l'Église travaille pour garder sa mission de transmettre le Christ.
Lors de l'émission précédente, vous avez mentionné la lettre du pape au peuple en disant que lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et effectivement, les chrétiens souffrent de cette situation et beaucoup cherchent des solutions radicales, rapides. Et certains avancent l'argument du célibat des prêtres. Qu'en est-il? Est-ce que de permettre aux prêtres de se marier, ça résoudrait ce problème?
Cette question revient souvent sur le célibat des prêtres. C'est un autre débat et l'Église se prononce à travers la voix du pape. Mais par expérience et par l'étude de cette réalité qui est l'abus sur mineurs ou les comportements sexuels sur enfants ne résoudrait pas totalement la réalité. Et même on se demande à quel pourcentage. Le célibat des prêtres ne va pas ensemble avec la pédophilie ou l'attraction d'une personne adulte sur les mineurs. Il y a plusieurs personnes mariées qui ont des vies régulières et même dans le milieu islamique, dans différentes situations où les adultes sont mariés et ont une vie sexuelle ou génitale normale ont ces attractions et il y a des réalités d'abus sur mineurs ou d'abus de confiance, d'abus de personnes âgées, de personnes adultes sur les mineurs. Le problème serait à revoir beaucoup plus au niveau de la maturité affective et sexuelle des personnes et surtout des prêtres, et cela au niveau de la formation des prêtres. Il y a des documents qui en parlent, Pastore Dabo Vobis, qui a été écrit par le pape Jean-Paul II, a souligné la formation à la maturité affective et sexuelle des prêtres. Il y a aussi le nouveau document sur la formation ratio, c'est-à-dire le don de la vocation, qui parle aussi et qui voit comment faire la sélection des prêtres, comment les former pour qu'ils puissent assumer cette promesse qu'ils font à Dieu. C'est une promesse libre qu'ils font à Dieu. Et donc, c'est dans la liberté qu'ils le font et dans la conscience. Ils ont besoin d'être soutenus, encouragés, formés, accompagnés tout au long de leur vie de prêtre pour répondre selon leur vocation et leur promesse. Et le débat est au niveau du Vatican, si il faut faire que les prêtres se marient ou non. Mais en vérité, ça ne répond pas et ça ne résoudra pas totalement le problème de l'abus sexuel sur mineurs.
Alors, un autre argument, ce serait de ne plus respecter le secret de la confession.
Le secret de la confession ou le secret confessionnel est inviolable au sein de l'Église. C'est vrai que les critiques disent à ceux qui ont commis l'abus au sein de l'Église, les responsables de l'Église se sont cachés derrière la confession. Ils peuvent se confesser, les personnes qui commettent l'abus sur mineurs, ils se confessent et ce qu'ils disent à la confession ne doit pas être révélé par le prêtre jusqu'à sa mort et jusqu'à la mort de la personne pénitente, donc la personne qui se confesse. Donc le problème n'est pas au niveau de la confession. Mais au sein de l'Église catholique, et la confession a l'aveu et il y a aussi la repentance. Et par rapport à ça, on peut ne pas donner l'absolution à la personne qui se confesse par rapport à l'abus en lui demandant de suivre la procédure qui convient pour réparer le péché avant l'absolution. C'est ce qui se fait et ça a été encore dans nos programmes de formation et par rapport à la formation des prêtres, maintenant c'est souligné davantage pour que l'absolution peut être retenue pour une personne qui agresse une personne mineure pour qu'elle fasse la démarche. Ce n'est pas nécessairement pour l'Église la punition qui est aussi la solution pour la personne qui agresse. C'est pour l'aider à se convertir, à se faire aider pour sortir de cette déviation, de cette souffrance et surtout pour se faire soigner si c'est nécessaire. Je parle des soins psychiatriques. Par exemple, s'il faut, il le faut. Et la personne devrait se soumettre à ça pour son propre bien avant tout et pour le bien des personnes qui lui sont confiées, surtout au sein de l'Église. Et donc des dispositions sont prises au sein de l'Église pour que ces personnes-là, une fois qu'elles ont suivi le traitement, donc on ne leur permet pas de faire certains ministères pour ne pas être exposées, pour ne pas exposer aussi les plus faibles et les plus petits de la communauté ou de la société.
Merci beaucoup, Sœur Mary, pour toutes ces précisions qui, je pense, peuvent rassurer nos auditeurs. Chers amis, je vous rappelle que nous étions avec Sœur Mary Lembo, qui est dans le Pacifique depuis 2 mois pour nous parler des abus sexuels dans l'Église et en général. Sœur Mary, merci encore.
Merci.
Chers amis auditeurs, nous vous retrouvons la semaine prochaine. Très bonne et sainte semaine à tous.